prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, les cinq pierres.
Nous allons faire une lecture, si vous voulez bien suivre avec moi, dans le premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Voilà. Alors, ça se situe dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ne seraient peut-être pas familiarisés. Alors, je répète. 1 Samuel, chapitre 17. Et nous allons lire à partir du verset 38. Verset 38. Alors c'est une histoire que tout le monde connaît. Si je vous parle de David et Goliath, ça vous rappelle peut-être quelques souvenirs. Saül, c'est le roi d'Israël. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses vêtements, ses habits, et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué, » et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors, pour revenir un petit peu sur cette fameuse histoire, c'est Israël qui est en guerre avec l'ennemi de toujours, les Philistins. Et parmi ces ennemis, il y a dans l'armée des Philistins, eh bien, un homme d'une taille considérable. Il s'appelle Goliath. Et nous voyons que, en quelque sorte, il tient tête, eh bien, aux soldats d'Israël. Et personne n'ose l'affronter. Et on connaît l'histoire, vous pourrez la relire en ouvrant tout à nouveau votre Bible et au chapitre tout simplement 17, vous reverrez un peu cette situation. C'est très intéressant parce que c'est toujours l'illustration que la loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Et si vous voulez, peut-être on peut le décliner d'une autre manière. C'est peut-être ceux qui sont sans apparence, ou sans force, hein, ou sans puissance, qui ne sont pas forcément à chaque fois les vaincus. Alors, dans ce que nous avons saisi de cette fameuse histoire, eh bien, nous voyons à un moment donné David se lever, aller voir le roi Saül, en disant, eh bien, puisque aucun des soldats d'Israël, même parmi les héros, personne ne veut affronter Goliath, eh bien, moi, je vais y aller. Alors, on sait que David, c'est vraiment un petit bonhomme, c'est un adolescent, il ne connaît pas grand-chose à la guerre. Et il va tout simplement dire, c'est moi qui vais aller vaincre ce géant. Et de fait, tout le monde est étonné, le roi va essayer de le dissuader en disant, mais tu n'es qu'un enfant, qu'est-ce que tu veux faire? Alors David va réagir et il va dire, mais moi, parce que je suis un berger, et quand il y a l'ours ou le lion qui vient pour égorger les brebis dans le troupeau de mon père, eh bien, je le chasse ou je le tue tout simplement, donc je n'ai pas peur. Je suis un garçon courageux. Alors, voilà que Saül va avoir un petit peu de commisération pour David, en pensant que David a perdu la tête, hein, aller affronter un homme si grand, un homme si puissant, que c'est inconcevable. Pour le roi, la partie est perdue d'avance. Il va en faire qu'une bouchée, Goliath, de David. Alors il va lui dire, eh bien, tu vas prendre mon épée, tu vas prendre mon armure, ça sera déjà une protection. Et au bout d'un certain temps, alors David est revêtu de tout cet harnachement de soldat, et puis au bout d'un certain temps, il veut marcher, mais il s'aperçoit qu'il ne peut pas marcher avec tout ça. Hein, le casque est trop grand, l'armure, eh bien là, il est complètement perdu dedans, l'épée, elle est plus haute que lui, comment peut-il Hein, finalement, eh bien là, aller au combat. Alors, il va laisser tomber tout cela. Il va se débarrasser de tout cela. Et alors, à ce moment-là, il a eu une idée géniale sur laquelle nous allons parler ce soir. Il a pris en main son bâton. Il est descendu dans le torrent auprès duquel il se trouvait. Il a pris 5 pierres polies et il les a mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Et vous avez lu avec moi. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alors, je ne vais pas aller plus loin dans... Vous pourrez lire la conclusion de tout ça, parce que c'est vraiment David qui a vaincu. Il a suffi d'une seule pierre. Il l'a lancée avec sa fronde, qui était quand même l'arme. Eh bien, à l'époque, c'était dont se servaient les soldats. Et en plein front, Goliath est tombé mort. Et ensuite, David lui a coupé la tête. Alors, ça a été un exploit qui est resté jusqu'à nos jours, puisqu'encore aujourd'hui, on connaît l'histoire de David et de Goliath. Et c'est encore proverbial, puisque souvent même, dans notre langage aujourd'hui, on parle encore de David et Goliath. C'est-à-dire, le plus faible qui a vaincu le plus fort. Et ça reste, et ça fait combien de temps? Ça fait 2800 ans, en gros, et peut-être même plus, peut-être 3000 ans. Donc, voilà pour le résumé. J'aimerais simplement rappeler qu'il s'agit de 5 pierres qui sont polies. Vous savez, une pierre qui a été polie, c'est une pierre qui a été frottée contre les autres. Et au bout d'un certain temps, toutes les aspérités ont disparu. C'est ça, une pierre polie. C'est quand même plus agréable de serrer dans sa main, et nous sommes au bord de la mer, ici, et on a des belles pierres sur la plage. Alors, vous en avez de toutes sortes, toute nature même. Et c'est quand même plus agréable de serrer une belle pierre qui a été bien lissée, bien polie, qu'une où il y a des aspérités qui peuvent vous blesser, finalement. Alors, on comprend que ces pierres, alors il les a choisies. Il les a choisies et puis ensuite, il les a mis dans son sac. Et courageusement, avec la foi qui le caractérise, il est allé justement devant son ennemi, devant Goliath. Je crois que ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que David n'est pas parti au combat sans rien. Il avait sa fronde, il avait ses 5 pierres polies, il les a mis en poche, et il avait son bâton, mais il y avait quelque chose qui faisait la différence, qui était certainement une arme de dissuasion et une arme de puissance, c'était sa foi en Dieu. D'ailleurs, quand il se présentera devant Goliath, qui va le regarder comme une puce, comme un chien. D'ailleurs, c'est écrit dans le texte. Il dira, mais tu viens avec moi, tu viens devant moi, mais je veux en faire de toi que finalement une bouchée. Et David lui répondra, il lui dira, mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées et je te tuerai. Il avait ça, mais c'était amplement suffisant. Alors, pour nous dire qu'avec la foi, avec 5 petites pierres qu'il avait gardées sur lui-même, dont une suffira, mais les 5 pierres, nous voyons que c'est toute une image que j'aimerais développer devant vous. Et ces 5 pierres polies, je voudrais les présenter comme les 5 étapes de la victoire de la foi, ou tout simplement... des victoires de la vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire, la vie chrétienne? Pour beaucoup, la vie chrétienne, c'est une vie religieuse. C'est une appartenance à une religion. C'est une conception, c'est un credo. Mais dans la Bible, ce n'est pas du tout cela. Quand on lit l'Évangile, quand on lit même ces textes de l'Ancien Testament, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'ascendant, quelque chose qui nous élève de plus en plus, qui fait grandir notre connaissance de Dieu, qui fait grandir notre courage, qui fait grandir notre confiance, qui fait grandir les expériences que nous pouvons faire avec ce Dieu qui nous a fait des promesses, et dont les promesses mêmes sont contenues à travers l'Évangile que nous lisons, dans la mesure où nous le croyons. Alors, ces 5 pierres, je le dis, c'est 5 étapes vers la victoire, et c'est aussi 5 étapes de la vie de foi, de chrétien, la vie donc chrétienne. Et j'aimerais mettre en parallèle, parce que souvent, les choses nous sont présentées également dans l'explication biblique, 5 pierres, 5 étapes de la vie des Hébreux lorsqu'ils sont sortis d'Égypte pour les amener dans le pays de Canaan. Alors, je résume. Vous savez que le peuple hébreu a été en esclavage pendant 430 ans dans l'empire égyptien. Et ils ont connu des temps de servitude épouvantables. Ils ont servi comme bêtes de somme pour construire les pyramides, pour construire les palais et les temples de l'Égypte, pour creuser les canaux. C'est pour ça que ce pays a été un pays d'une richesse extraordinaire, parce qu'il y avait une population d'esclaves. Il n'y avait pas que les Hébreux, il y avait d'autres nations. Mais néanmoins, il s'agit des Hébreux. Et nous voyons que c'était un peuple de foi, c'était le peuple de la foi, c'était le peuple de Dieu. Et nous voyons que à travers les temps, eh bien, un moment est venu à travers et sous l'instigation d'un grand homme biblique qui est Moïse, le peuple d'Israël est sorti. Il est sorti libre. Il est devenu une nation. Et entre le moment où il est passé de la condition de l'esclavage à la condition de peuple libre, où Dieu le conduisait, c'est-à-dire dans le pays de Canaan, souvent présenté comme le pays où coule le lait et le miel, un pays de bonheur, un pays de bénédiction, un pays de liberté, un pays de richesse en tout genre. Alors nous voyons que, eh bien, nous allons suivre, et nous allons prendre dans la poche de David, si vous voulez, pierre par pierre, étape par étape, eh bien, la manière dont Dieu nous conduit pour atteindre la victoire, pour atteindre la liberté, en d'autres termes, accéder à la vraie vie. Alors je reviens sur eh bien, ces étapes du peuple hébreu. Et nous allons sortir une première pierre de la gibecière, finalement, de David. La première pierre, c'est la conversion. Qu'est-ce que veut dire convertir, se convertir? Ça ne s'est absolument pas dans la Bible. La signification que l'on donne d'une manière généralisée, c'est-à-dire changer de religion. Le mot conversion, ça veut dire tout simplement changer de vie. Ou, avant de changer de vie, changer d'avis pour changer de vie. C'est-à-dire que je marchais dans cette direction et je me suis aperçu que je faisais fausse route et maintenant je prends la direction inverse. Convertir. C'est un terme militaire d'ailleurs. Hein? Demi-tour, droite. Voilà. Vous avez compris ce que ça veut dire. Même si vous n'avez pas fait votre service militaire. Donc, ça, c'est la première pierre, la conversion. Elle est essentielle et fondamentale pour tout homme. Il ne s'agit pas d'une appartenance à une religion par le baptême des enfants. Non, dans la Bible et dans le Nouveau Testament, vous verrez que tous les hommes qui ont suivi Jésus, ils se sont fait baptiser en tant qu'adultes, en pleine connaissance de cause et des faits aussi. Donc, première étape, la conversion. Mais cette conversion, c'est un peu à l'image des Hébreux. Quand ils étaient esclaves en Égypte et qu'ils sont arrivés à leur affranchissement sous la houlette de Moïse. En quelque sorte, ils ont changé de vie. D'esclaves, ils sont devenus des hommes libres. D'adorateurs de toutes ces idoles qui peuplaient l'empire d'Égypte, ils sont devenus des adorateurs du vrai Dieu, le Dieu d'Israël, leur Dieu en quelque sorte. Dégagés de toutes ces superstitions, de ce paganisme, de toute leur misère, de toute leur souffrance. Et ils ont dû, à ce moment-là, sortir du monde de l'Égypte. Comme un homme d'aujourd'hui, qui représente cette première pierre, eh bien, il sort du monde avec tout ce qu'il peut y avoir, finalement, d'esclavage, à commencer par le mal et le péché, à commencer par toutes les addictions. Ils font que les hommes, eh bien, se rendent bien souvent très malheureux, mais ne peuvent pas s'en sortir. L'alcool, la drogue, enfin, toutes sortes de choses. C'est comme un pharaon qui domine sur les gens, sur les hommes. Et ils peuvent crier, mais il semblerait que les chaînes et les liens ne tombent pas. Et ça, c'est l'image, finalement, d'Israël. C'est l'image de ce que l'Évangile nous apporte aujourd'hui. C'est que nous passons d'un monde à un autre. Nous passons d'un état à un autre état et nous marchons vers la liberté. Vous savez, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que la conversion d'Israël, c'était qu'Israël, que Pharaon les a laissés sortir. alors qu'il était complètement résolu à les garder comme esclaves dans son pays. Il a fallu que Pharaon capitule sous l'autorité de Dieu. Et puis à un moment donné, ils se sont trouvés dans une situation extrêmement difficile, un passage difficile de leur conversion, qui a été le passage de la mer Rouge. Ils avaient devant eux une mer. À droite et à gauche, c'était le désert à perte de vue. Derrière, c'était les armées de Pharaon qui les prenaient en tenaille pour finalement les jeter dans l'eau. Alors ils étaient perdus. Et nous voyons que, vous connaissez, si vous avez vu cette grande fresque cinématographique, vous avez un petit peu pu imaginer, mais il vaut mieux encore le lire dans la Bible, c'est préférable. Et nous voyons qu'à un moment donné, Dieu, miraculeusement, surnaturellement, a ouvert finalement ce passage. Et là encore, il y a eu un renversement, comme du temps de David et de Goliath. C'est que le plus fort a perdu la partie, et le plus faible, donc les Hébreux, ont passé à pied sec et se sont retrouvés de l'autre côté, alors que l'empire d'Égypte a été complètement anéanti dans l'eau. Ça, c'était l'affranchissement. Ils étaient de l'autre côté, ils étaient hors de portée. C'est la conversion. Ils sont allés dans le désert. Et dans le désert, ça a été toute une autre affaire dont nous allons parler d'ici quelques instants. Sortir du monde, et c'est Dieu qui nous fait sortir et qui nous amène à devenir chrétiens. Nous ne naissons pas chrétiens. Nous devenons chrétiens par une expérience. Les Hébreux, c'était une expérience. On parle de David, mais David est devenu un homme de foi par l'expérience qu'il avait faite avec Dieu, qu'il faisait avec Dieu, et des expériences au pluriel, naturellement. Donc ça, c'est la première pierre. C'est celle qui va véritablement être le point essentiel d'une vie nouvelle pour un homme. Et comme l'histoire nous le rapporte, il y a toujours un avant et un après. Pour un chrétien, il y a avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, pour nous. Ce que nous étions sans connaître Christ, peut-être nous avions notre religion, mais ce n'est pas ça ce qui nous a sauvés. C'est vraiment une connaissance réelle de ce que nous avons découvert à un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous a appelés, un Dieu qui nous a choisis, et un Dieu qui a véritablement en perspective de nous faire rentrer dans un pays où coule le lait et le miel. Alors c'est une image, c'est une vue de l'esprit. Mais où nous serons délivrés de nos esclavages, de nos chaînes, de nos liens, de tout ce qui nous a servi, de tout ce qui nous rend profondément malheureux, pour nous faire rentrer dans une autre dimension, qui sera en quelque sorte la marche vers le pays de Canaan, où là nous pourrons véritablement jouir de tout ce que Dieu nous a préparé, non seulement pour nous-mêmes, notre propre liberté, notre propre bonheur, mais également de pouvoir servir Dieu. De pouvoir dire, maintenant, je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis disciple de Jésus-Christ, et je sais maintenant qui je suis. Moi-même, mais qui je suis? Celui qui marche devant moi. Celui dont j'ai entendu les paroles, celui qui m'a appelé, et celui en qui je crois, et celui qui me donne la force de toutes choses. Même les choses les plus difficiles, dans l'épreuve, dans la tristesse, dans le chagrin, c'est encore lui qui est capable de mettre au fond de mon cœur la joie. C'est un affranchissement, c'est une conversion. Avec une reconnaissance que nous étions auparavant perdus et que maintenant nous sommes sauvés. Première pierre. On va fouiller un petit peu et on va sortir une deuxième. Deuxième pierre polie, c'est qu'après cette étape d'affranchissement et de liberté, où nous savons où nous allons, nous traversons finalement, et nous allons donc dans le pays de Canaan, c'est ce que j'appellerais pour les Hébreux l'apprentissage de la foi. On pourrait dire qu'avant ils avaient une vague croyance, comme beaucoup d'hommes aujourd'hui. Mais ils ont su ce que voulait dire le mot foi. C'est faire confiance à Dieu d'une manière pratique et réelle. Et ils ont dû passer, après le passage de la mer Rouge, après cette expérience d'avoir vu le miracle et le surnaturel de Dieu, l'empire qui les dominait s'effondrait, la délivrance de l'ennemi. Alors à ce moment-là, ils ont fait l'apprentissage de la foi. Et Dieu les a mis à l'école du désert. Normalement, ils étaient partis pour 2 ans. Et c'est assez paradoxal parce que les voies de Dieu ne ressemblent pas à ce que nous pouvons imaginer, nous. Quand vous regardez une carte de l'Égypte, que vous avez dans votre Bible, vous avez donc Canaan qui se trouve un petit peu plus au nord. Ce n'était pas très loin, il suffisait tout simplement de suivre la côte de la mer Méditerranée et d'arriver justement dans le pays des Philistins d'abord et ensuite de Canaan. Ce n'est pas très loin. Mais Dieu leur a dit, au lieu d'aller au nord pour rejoindre le pays de Canaan, là où vous devez aller, vous allez descendre par le sud. Donc dans le désert du Sinaï. Et normalement, ça devait durer un certain temps. Pas trop longtemps. Mais à cause de leur incrédulité et de leur révolte, au lieu de durer 2 ans, ils ont eu un rajout de 38 ans supplémentaires, ce qui fait donc 40. C'est quand même pas de petite affaire. Hein. C'était en prime. Mais c'était de leur faute. Parce que Dieu leur avait dit, voilà, vous allez vous désintoxiquer de l'Égypte. Vous avez vu des choses abominables, vous avez vu des choses qui appartiennent à l'occultisme, au spiritisme, au satanisme, puisque c'était ça l'Empire d'Égypte. Hein. Maintenant, vous avez besoin d'être sevré. Avant de rentrer dans votre demeure, dans votre pays, qui est un bon pays pour vous, il va falloir que vous vidiez votre cœur, que vous soyez nettoyé dans vos pensées, dans votre âme, pour que vous soyez mon peuple, que vous puissiez m'appartenir, que vous puissiez me servir et m'adorer. Ça, c'était la vocation d'Israël. Alors, ils ont fait l'apprentissage de la foi, mais comment ? Eh bien, comme un désert, c'est quand même un endroit qui n'est pas forcément très favorable pour la vie, où il n'y avait rien, à peine un peu d'eau, à peine, je dis bien, alors ils ont dû être tout simplement s'abandonner entre les mains de Dieu. S'ils voulaient vivre, attendez, hein, c'était un peuple de 2 millions de personnes, c'était pas une petite caravane de... Hein, 2 millions de personnes, des femmes, des hommes, des vieillards et des enfants qui suivaient dans le désert. Ce n'était pas une petite affaire. Et dans cet espace aride, dans cet espace torride, où il n'y avait rien du tout, la seule chose qu'ils avaient où ils pouvaient espérer, c'est de compter sur la grâce de Dieu. Et Dieu leur avait dit, vous allez rentrer dans le désert, avant de rentrer dans le pays de l'abondance où coule le miel, mais vous allez passer par un sevrage, par un apprentissage, par une école divine, et vous allez rentrer dans ce désert, vous allez apprendre ce que c'est que la vie par la foi, mais vous ne manquerez jamais de rien. Vous ne manquerez pas d'eau, vous aurez le pain qui était la manne, ils voulaient manger de la viande, Dieu leur a donné des cailles, ils avaient besoin de telle ou telle chose, Dieu leur donnait. C'était une vie dépendante complètement et totalement. Ça c'est la deuxième époque de la conversion, ou tout simplement de la vie chrétienne, étape, voilà. Et nous voyons que c'est ce que nous vivons lorsque, après avoir découvert Seigneur qui nous a libérés, qui nous a sauvés, qui nous a pardonnés, eh bien nous rentrons comme parfois dans une forme de... comme dans une forme de vie. Au départ, nous le sentions si près. C'est lui qui nous a délivrés de l'Égypte. C'est lui qui nous a fait traverser nos mers rouges. C'est lui qui a écroulé nos montagnes. Et puis à un moment donné, plus rien, c'est le désert. Et c'est là justement où nous sommes exercés à lui faire confiance. Et il s'est passé une chose, c'est que les Hébreux, au lieu de faire confiance à Dieu, on en reverra ça dans le dernier point, se sont révoltés. Ils se sont dit, eh bien, on aurait préféré mourir en Égypte. On préférait encore être battu par les soldats de Pharaon. On préférait encore mourir à la tâche. Alors que Dieu leur donnait justement le chemin, il les mettait sur le chemin de la liberté, mais ils ne l'avaient pas vu. Ils étaient aveugles. Et ils voulaient retourner en arrière. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Lorsque... finalement, eh bien, les portes d'avenir, des portes d'espérance sont ouvertes pour nous et que nous ne voyons pas là où Dieu nous mène et que nous regardons derrière nous. C'est terrible de faire marche arrière. Et c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu faire l'apprentissage de la foi. Et ça a été très difficile, surtout pour Moïse, hein, parce qu'il a eu quand même maille à partir avec les Hébreux contestataires. L'école du désert. Il ne faut pas se décourager dans l'école du désert. Parce que Dieu est beaucoup plus près qu'on ne le pense, même si on ne le sent pas. Et même si on ne le voit pas, il a fait la promesse d'être là, et il sera là. Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28 et au verset 20, il nous dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. » On le croit ou on ne le croit pas. Mais si on le croit, alors à ce moment-là, le miracle devient possible, que c'est lui qui prend notre vie en charge, et qui subvient à tous nos besoins, qu'ils soient physiques, que ce soit des besoins de santé, ou que ce soit des besoins moraux, des besoins psychologiques ou des besoins spirituels, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Deuxième étape. On encore une belle pierre polie. Le troisième plan que nous aimerions dévoiler maintenant, troisième pierre, troisième étape, c'est que les Hébreux, après être libérés d'Égypte, après avoir passé par l'école du désert, ce que nous nous venons de dire, ont été préparés à servir Dieu. Troisième chose, nous ne sommes pas sauvés pour nous-mêmes, mais nous sommes sauvés pour que nous puissions servir le Seigneur, avec la connaissance que nous avons, avec les expériences que nous avons faites. Ce n'est pas la récitation d'une religion, mais c'est de pouvoir dire, eh bien, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a délivré, le Seigneur m'a guéri, c'est vrai. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Et vous ne croyez pas que le monde d'aujourd'hui a besoin d'entendre ce genre de langage ? Ça s'appelle l'Évangile, ça s'appelle une bonne nouvelle. Et les gens ont besoin d'une bonne nouvelle. Lorsque nous entendons tous les jours les nouvelles qui nous arrivent, c'est toujours quelque chose de catastrophique. Même la météo n'est pas au rendez-vous, sinon pour le jour de la Pentecôte. Hein ? Très beau. Mais c'est souvent des mauvaises nouvelles. C'est accablant, on comprend que les gens n'ont pas le moral. Parce qu'ils sont assénés de toutes sortes de choses. Alors nous sommes sauvés pour servir le Seigneur et dire tout simplement ce que le Seigneur a fait pour nous. Les premiers chrétiens dans l'Évangile, c'était des gens qui étaient convaincus, c'était des gens qui étaient remplis de zèle, remplis de feu, mais pourquoi ? C'est parce qu'ils avaient, à la base de leur foi en Dieu, ils avaient une expérience magnifique et merveilleuse. Et c'est ce qui faisait la différence, c'est pour ça qu'ils ont conquis le monde. Et 2000 ans après, le christianisme n'a pas disparu, il est toujours au milieu des hommes. Et Dieu sauve encore aujourd'hui. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité, il est vivant. Alors servir Dieu, je reviens. Et Dieu leur avait dit, dans le désert en particulier, vous n'allez pas rester inactifs. Moi, je pourvois vos besoins si vous me faites confiance. Mais vous allez me servir. Et Dieu a eu cette idée géniale de leur faire construire le tabernacle, la tente d'assignation. Alors quand vous lisez les livres historiques, ou les livres du Pentateuque, c'est-à-dire les cinq premiers livres de la Bible, vous verrez que Dieu leur a donné un ouvrage considérable à faire. Parce que le tabernacle, ou la tente d'assignation, appelée de cette manière, c'était un chef-d'œuvre. C'était en or, c'était en argent, c'était avec les choses les plus précieuses qu'il y avait, dont les Hébreux possédaient, parce qu'ils avaient quand même des richesses. Dans le désert, ils avaient des richesses. Ils avaient emmené des richesses d'Égypte. Et c'était les Égyptiens qui leur avaient donné de l'or et de l'argent avant de partir. Vous vous rendez compte ? C'est rare, hein, quand vos ennemis vous remplissent vos poches en disant « Maintenant, vous n'allez pas repartir à vide. » Ils voulaient tellement que les Hébreux quittent le pays d'Égypte, sauf Pharaon. Eh bien, il leur a dit « Maintenant, allez, on vous met à la porte, mais vous n'allez pas repartir à vide. » Et toutes ces richesses qui sont sorties d'Égypte ont servi. Non pas à construire le veau d'or, parce que ça a été une catastrophe, c'était véritablement le plongeon magistral dans l'idolâtrie, mais de construire ce temple qui voyageait avec les pérégrinations du peuple, mais c'était véritablement un chef-d'œuvre. Et Dieu avait suscité parmi le peuple d'Israël, et parmi tous les hommes finalement, des artistes, des artisans. Et Dieu avait mis son esprit pour construire ce chef-d'œuvre qui était la tente d'assignation. Pour nous dire encore aujourd'hui, pour nous, après l'affranchissement, donc la conversion, après l'apprentissage de la foi, marcher pas à pas avec Dieu en lui faisant confiance, Dieu nous appelle à le servir. Pourquoi Jésus a-t-il pris 12 hommes avec lui ? Il en a fait ses disciples. Qu'est-ce qu'un disciple ? Qu'est-ce que veut dire le mot disciple ? C'est celui qui est assis au pied d'un maître et qui écoute les enseignements. Pour qu'ensuite, ayant été enseigné, ils le disent à d'autres. Et aujourd'hui encore, quand un homme se convertit, quand il sort de sa misère, quand il a véritablement la foi dans son cœur, quand il est passé par l'école de la foi, alors à ce moment-là, il peut servir Dieu. Il le sert d'une manière très simple. Dieu ne va pas forcément nous envoyer là, aux extrémités de la terre pour être missionnaire. Il y en a qui partent. Il ne va pas forcément nous donner un ministère pastoral ou autre chose. Mais on peut le servir d'abord dans notre propre maison, en rendant un bon témoignage dans notre milieu social, professionnel ou autre. Et nous sommes et nous devenons à ce moment-là des ambassadeurs. C'est un beau titre, ambassadeur. Hein ? C'est une belle fonction, parce que je représente mon pays à l'étranger. Et nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, du le royaume des cieux et notre roi, c'est Jésus. Et nous parlons de ce qu'il y a dans ce royaume. C'est un royaume de paix, c'est un royaume d'amour, c'est un royaume de vérité, de justice. Rien à voir avec le royaume de la terre et des hommes. Donc nous servons. Et la construction du tabernacle s'est réalisée comme ça dans le désert. C'était une splendeur. Et Dieu leur avait donné des dons et des talents. Ça, c'est important de le souligner parce que le maître architecte qui appelle ses ouvriers ne les laisse pas sans rien entre les mains. Non seulement il nous donne les outils, mais il nous donne le savoir-faire pour les utiliser, la dextérité. Et vous vous souvenez de cet homme dans la construction du tabernacle qui s'appelait Betsaléel, où il nous est dit que l'Esprit de Dieu vint sur cet homme et il lui a donné avec d'autres la capacité, la faculté de faire des œuvres d'art extraordinaires et magnifiques. C'était l'Esprit de Dieu. Cet homme avait certainement des dons naturels, mais Dieu les a amplifiés, ces dons naturels. Les dons et les talents. Dieu nous donne des dons et des talents. Pour les uns, ce sera d'une manière, pour d'autres, ce sera d'une autre manière, pour servir le Seigneur. C'est encore une pierre polie. Encore une autre pierre polie, quatrième, c'est que lorsque nous marchons dans la vie chrétienne ou dans la foi, nous avons besoin d'un enracinement. Oui. L'enracinement est le progrès spirituel. On a remarqué très rapidement que les Hébreux, pour beaucoup, s'étaient arrêtés en route. C'est bien dommage, parce qu'ils n'ont jamais vu le pays de Canaan. Ils n'ont jamais vu les promesses de Dieu. Ils n'ont jamais vu la réalisation de ce que Dieu avait à cœur de leur donner en cadeau. Alors, nous avons besoin, après avoir été affranchis, après avoir découvert la foi, après avoir et en servant le Seigneur, nous avons besoin de racines. Jésus nous donnera cette belle petite parabole du fou qui a construit sa maison sur le sable et du sage ou de l'homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Il y a quand même une différence. J'ai toujours été étonné ou admiratif de voir quelquefois dans les montagnes, un petit sapin rabougri qui pousse sur quelquefois là un pic et il n'a pas de terre. Et il est là, livré au vent, aux tempêtes, à toutes les intempéries de la montagne. Et finalement, il n'est pas dans un terrain qui pourrait permettre sa croissance. Et pourtant, ce petit arbuste tout rabougri, il tient bon. Il est encore plus solide que les autres. Mais il est arrivé avec le temps à faire pénétrer ses racines au creux de la roche, voire même faire éclater la roche. C'est une puissance, hein, une puissance lente. Et la puissance lente, c'est la persévérance. Un enracinement. Et rien ne pourra l'arracher. Essayez d'arracher un petit arbuste comme ça, vous allez voir, hein, c'est vous qui allez descendre, hein, parce que il faut s'accrocher, hein, tellement il est rentré dans le roc. Et la foi, c'est aussi, et Jésus nous en parle très souvent, c'est aussi un enracinement. Si nous écoutons la parole de Dieu, nous lisons la Bible une fois de temps en temps, et nous disons, oh bon, oui, c'est très bien, il n'y a rien contre, mais vous n'allez pas faire de progrès. Je crois que ce qui est important, c'est que notre communion soit une communion permanente avec le Seigneur. C'est pas une démonstration de religion, mais une communion. Avec le Seigneur, on est en communion avec lui, en relation avec lui, à chaque moment de la vie. Et à chaque heure de la journée, même voire de la nuit. Ouais. Mon cœur parle à Dieu. Je m'imprègne de sa présence. Tout ce que je fais, je l'associe. Je lui demande. Il me conduit. Il me soutient, il me console, il me protège. Parce que je suis enraciné dans le Seigneur. Je suis en lui et lui est en moi. Jésus le dit, hein, justement, en parlant de la Pentecôte. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous et je serai en vous. Ça, ce sont des belles promesses. Hein. Vous voulez retrouver le passage ? Évangile de Jean, chapitre 14. Chapitre 16 également. Les deux chapitres en parlent. Donc là, c'est l'enracinement ou le progrès spirituel. Écoutez, il y a un bon moyen pour croître et pour se développer spirituellement. Vous savez que les Hébreux, quand ils ont été faire le tour en Égypte, comme ça, Dieu leur a parlé dans le désert. Et qu'est-ce qu'il leur a donné au mont Sinaï ? Il leur a donné sa parole. Moïse est monté sur la montagne pendant 40 jours. Et il a reçu les tables de la loi. la parole de Dieu, la volonté de Dieu, les commandements, vous les connaissez en substance. Mais la loi de Dieu, Ancien Testament, il y a quelque chose qui a dépassé cette dimension parce qu'elle a été mise véritablement à la dimension encore beaucoup plus belle et beaucoup plus haute et beaucoup plus spirituelle. Ce sont les paroles de Jésus dans l'Évangile. Ça, c'est la parole de Dieu. Et si je me nourris de cette parole, c'est une véritable nourriture. Elle va construire ma vie, elle va construire ma foi, elle va m'apprendre, finalement, cette parole à faire confiance à Dieu en toutes choses. Elle va me libérer de mes peurs et de mes craintes, à commencer par la peur de vivre ou la peur de mourir. Et cette parole, elle va me rassurer, elle va me consoler. Écoutez ce qu'il nous est dit. Enracinement dans une bonne terre, dans un beau terreau, comme Jésus en parlera dans une parabole, la parabole du semeur. Écoutez, il dit, voilà, dans Deutéronome, « Voici, c'est Dieu qui dit ça à Israël, voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tous tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. » Et si vous lisez la suite de ce chapitre 6 de Deutéronome, vous avez tout le détail pour rendre un homme heureux, pour rendre les hommes heureux. On est enraciné dans la bonne terre. Et ce qui nous permet de croître et de grandir, c'est parce que nous nous nourrissons de cette parole. Une bonne nourriture sur le plan humain, terrestre, eh bien, ça fait croître. Si elle est, si elle dispense des vitamines et tout ce qui est nécessaire, eh bien, on va grandir, on va vivre. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture aussi. Et nous avons besoin, eh bien, de nous imprégner de cela. Ça, c'est la quatrième pierre polie. La cinquième, et je vais bientôt finir, après la conversion dont nous avons parlé tout à l'heure, donc la sortie d'Égypte. Après le passage au désert, l'apprentissage de la foi. Après le service de Dieu, Dieu nous dit, maintenant eh bien, tu vas me servir. Après l'enracinement et le progrès spirituel dans la parole de Dieu, il y a nécessairement, quand un arbre a été planté, alors il fait des feuilles, il fait des fleurs, et après il y a un fruit. Un chrétien... Ce n'est pas un homme qui porte le nom de chrétien, ce n'est pas un chrétien de nom, c'est un chrétien qui l'est réellement, avec un fruit. Et Jésus nous le dit bien dans le sermon sur la montagne, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Si l'arbre est bon, le fruit sera bon. Si l'arbre est mauvais, le fruit sera mauvais. » Donc, le christianisme, la foi, notre appartenance à Jésus-Christ, le nom de chrétien que nous portons, parce que chrétien, ça vient de Christ, alors à ce moment-là, nous portons un fruit, et ce fruit est la preuve d'une vie nouvelle. La vie nouvelle. La cinquième pierre polie, ça. Être une nouvelle créature. Être une personne qui a été changée, totalement transformée par Dieu. Au lieu de la haine, c'est l'amour. Au lieu de la tristesse, c'est la joie. Même dans les épreuves, et puis tant d'autres choses. Et cela, c'est la cinquième pierre. Jésus a dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc, on ne reconnaît pas aux paroles. Ce n'est pas les paroles, on peut toujours dire des beaux mots et vivre autrement. Mais vivre notre vie. Et ça, ça touche le caractère et ça touche finalement notre identité profonde. Avoir un cœur nouveau. Je prends simplement l'exemple bref de cette cinquième pierre polie. Les révoltes d'Israël dans le désert. Dieu leur avait dit, écoutez, moi je vais prendre soin de vous. Je vous emmène dans un pays où vous serez heureux. À chaque fois, les Israélites se révoltaient. Il nous est dit, et Israël murmura, et Israël murmura. Continuellement dans les textes. Il n'était jamais content. Il était toujours rempli d'amertume, rempli d'aigreur, et il murmurait continuellement. Et ils sont tombés dans la révolte. Dieu dira plus tard par le prophète Ézéchiel, je vous donnerai un esprit nouveau et un cœur nouveau. C'est ça ce que Dieu veut faire finalement. Alors Israël, avant de rentrer dans le pays de Canaan, a fait la démonstration d'une révolte et d'une rébellion permanente. Je voudrais signaler quelque chose que nous comprenions bien ce soir. Il y a une grande différence entre un esprit de critique et une pensée critique. Écoutez bien. Israël avait un esprit critique. Les causes, c'est parce qu'ils avaient peur. Et ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ils étaient incrédules. Ils ne faisaient pas suffisamment confiance à Dieu. Alors ils se révoltaient dès qu'ils avaient soif en disant « Seigneur, eh bien, donne-nous de l'eau ». Dieu leur a dit « Mais je vais vous en donner ». Mais restez calme. Et puis toutes sortes de choses comme ça. Et ça les amenait à être méchants. Ça les amenait à juger impitoyablement. Ça créait dans leur attitude du mécontentement. Et puis ils pleurnichaient, ils s'apitoyaient sur eux-mêmes. Ils avaient oublié qu'ils avaient un Dieu qui était un grand Dieu, qui pouvait faire des choses extraordinaires et miraculeuses. Et ça, ils l'avaient oublié. Alors ils s'apitoyaient sur eux-mêmes. Et ils vivaient non pas dans la progression, mais dans la régression et dans la restriction de la vie. Ce qu'il voulait dire, c'est que Dieu voulait faire de grandes choses avec eux, mais eux, ils faisaient exactement le contraire. Dieu ne pouvait rien faire avec eux parce qu'ils étaient dans cet état d'esprit, dans cet esprit critique. Je dirais même que c'était un état d'esprit. Ce qui veut dire que c'était quelque chose, c'était une permanence, c'était quelque chose de constance chez eux. Et il y a une des choses que Dieu veut nous délivrer, les uns et les autres, après être sortis d'Égypte, si vous me suivez, après avoir fait l'expérience de la foi, après ou dans le service de Dieu, après un enracinement plus ou moins réussi, Dieu veut nous enlever de nos cœurs, puisqu'il a dit qu'il changerait notre esprit, un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est que Dieu veut nous délivrer parfois de cette tendance innée que tous les hommes ont, lorsqu'ils sont mécontents, lorsque les choses ne vont pas comme ils le pensent, aussi vite, dans l'impatience ou dans toutes sortes de choses, il veut délivrer les hommes d'un esprit critique. Cette faculté, cette réaction que nous avons toujours, eh bien là, de dire « Ah, ça ne me plaît pas, ceci, cela et celui-ci, et celle-là, etc. etc. » Jamais rien trouver à notre goût. Ça, c'est l'esprit critique. Par contre, la pensée critique, nuance, elle est toujours circonstancielle. Je veux dire qu'il y a des situations qui sont présentées et elle est utile pour corriger, pour redresser, pour rétablir la vérité. Et là, ce n'était pas une pensée, on pourrait dire, critique qu'ils avaient, mais ils étaient toujours en contestation. Rien ne leur convenait aux Hébreux. Et c'est le contraire. Parce qu'une pensée ou la pensée critique, elle affûte l'intelligence et le raisonnement. Ouais. Elle nous donne de réfléchir et de dire, oui, mais bon, c'est vrai que ça ne rentre pas dans le cadre de ce que j'avais pensé. C'est peut-être en dehors de ce que j'ai l'habitude, finalement, de voir, mais peut-être qu'il y aurait quelque chose de meilleur. Alors que les Hébreux, c'était toujours quelque chose de nouveau avec Dieu. Ils se disaient, parce que c'est nouveau, bah, c'est pas bon. Alors, ils repoussaient les choses. Parce que cette pensée critique dont nous parlons, eh bien, elle stimule, je l'ai dit, l'intelligence, le raisonnement, l'examen des faits et des situations. Et ils auraient dû dire, mais si Dieu nous conduit, si Dieu nous a promis, c'est qu'il va nous emmener jusqu'au bout. Et ça, ça ne rentrait pas. Parce que cette pensée critique, elle fait progresser et témoigne de l'amour et de l'intérêt du bien des autres. Voilà la grande différence. Et ce n'est pas défendu. Jésus n'a jamais eu un esprit critique. Il a eu une pensée critique vis-à-vis des pharisiens, vis-à-vis de tous ceux qui étaient peut-être abatifolés dans toutes sortes d'égarements, dans le péché, etc. Mais en leur tendant la main, pour leur dire « Vous n'allez pas rester comme ça, moi j'ai quelque chose de meilleur, j'ai quelque chose de supérieur, vous n'allez pas continuer à vivre dans votre médiocrité, j'ai une vie supérieure à vous donner. » Et c'est bien la grande différence. Et ça, c'était vraiment la caractéristique des Hébreux dans le désert avant de rentrer dans le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Je termine maintenant simplement. Je prends ce texte dans Marc et ça nous servira de conclusion. Parce que si l'arbre a été planté, s'il fait les fleurs, il va porter du fruit. Et regardez comment il nous est dit. Marc chapitre 4, verset 26, je lis, c'est une petite parabole. Jésus dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis les plis, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous est présenté le royaume de Dieu. On a parlé de Goliath tout à l'heure, pour aller jusqu'à la victoire. On a parlé du peuple hébreu pour aller jusqu'au pays de Canaan. On parle des chrétiens d'aujourd'hui, ou de l'homme, ou de la femme qui veut véritablement devenir chrétien. Il y a des étapes. Et Dieu a donné à chacun au moins 5 pierres dont nous avons parlé, pour que nous ne les gardions pas dans nos poches ou dans notre gibecière, mais que nous les sortions et que nous les fassions valoir. Elles ne vous feront pas de mal, ces pierres. Elles sont polies. Elles ne vont pas vous déchirer, mais il faut les utiliser. Et vous les utiliserez comment? Eh bien, par la foi. Tout simplement par la foi. Et écoutez, le royaume de Dieu est quand un homme jette de la semence en terre. Et la parole de Dieu, c'est une semence qui est jetée dans vos cœurs. En l'occurrence, ce soir. Alors, lorsqu'elle est déposée par le semeur, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et elle croît sans qu'il sache comment. Il y a bien des choses qui appartiennent au mystère de la vie et au mystère peut-être de l'au-delà que nous ne comprenons pas, mais nous n'avons pas besoin de comprendre. Dieu ne nous a jamais demandé de comprendre dans un premier temps. Il nous a demandé de croire, ensuite nous allons comprendre. Mais souvent nous avons ce raisonnement très primaire et très humain, naturel, où j'ai souvent entendu dire les gens dire « Si je vois, je croirai. » Et qu'est-ce que Dieu nous répond ?« Crois d'abord et tu verras. » C'est ça la différence. C'est ça le miracle de la foi. Alors, la terre produit d'elle-même d'abord de l'herbe, le blé en herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi, et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, et la moisson est mûre. C'est-à-dire que Dieu nous donne finalement ce que nous avons semé. Et un épi en produit 30, un autre 60 et un autre 100. Moi, je crois que le Seigneur ne veut pas que nous ayons des vies de restriction, des vies au rabais. Il veut que nous soyons véritablement ces épis qui portent en abondance et que nous puissions véritablement comprendre que l'appel qu'il nous adresse ce soir, quand il nous dit « Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé », c'est pour nous donner du repos. C'est pour nous donner la paix. C'est pour nous donner la guérison peut-être dans nos corps ou dans nos âmes, de peut-être de la dépression, de toutes sortes d'angoisses, de toutes sortes de craintes et de peurs. C'est pour nous donner son pardon. C'est pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. Alors à ce moment-là, il nous est dit, quand la moisson arrive, eh bien, c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Vous savez, il y a ce beau passage dans le livre des psaumes, que celui qui porte la semence en pleurant reviendra avec des chants d'allégresse. Alors que le Seigneur nous bénisse ce soir. Que Dieu nous donne la grâce. Alors souvenez-vous des 5 pierres, et puis, eh bien, mettez-les en valeur, ces 5 pierres, tout simplement en faisant confiance au Seigneur. Nous allons prier maintenant, si vous voulez bien. Voilà, je vous demande quelques instants de recueillement, et nous allons demander à Dieu qu'il vous bénisse, les uns et les autres. Merci. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous parles. Tu nous parles avec des images, tu nous parles par des paraboles, par toutes ces allégories, Seigneur, qui sont là dans ta parole, dans l'évangile, pour que véritablement nous comprenions que le christianisme, ce n'est pas une déclaration, une proclamation des lèvres, mais c'est avant tout, Seigneur, une vie réelle, une vie où tu nous as promis, Seigneur, que nous ne serions pas seuls, que toi tu serais fidèle, que dans la mesure, Seigneur, où nous te faisions envers et contre tout, contre vents et marées, bien confiance, même si nous ne te voyons pas, même si tu es le Dieu de l'invisible. Néanmoins, Seigneur, tu nous as donné ta parole pour que nous puissions nous enraciner en elle, que nous puissions croître, que nous puissions porter du fruit, Seigneur, et que ton nom soit glorifié, et que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons sauvés. Merci, Seigneur, tu bénis, eh bien, Père éternel, mes amis ce soir. Tu bénis, Seigneur, les auditeurs qui, en effet, Père éternel, recevront ce message ici ou ailleurs, peu importe. Mais nous croyons que, Seigneur, tu vas véritablement aider les hommes qui écoutent ta parole, pour qu'ils puissent te répondre favorablement. Et c'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Merci Seigneur, parce que nous pouvons dire que véritablement, oui Seigneur, que David a vaincu Goliath, que David à terrasser, Seigneur, tout ce qui est en nous, autour de nous, Seigneur, qui est là pour nous donner la mort, pour véritablement nous abattre, eh bien, c'est toi qui l'as terrassé, qui a terrassé, Seigneur, le géant, tous les géants de notre vie, pour que nous puissions venir à notre Dieu et pouvoir le prier, pouvoir l'adorer, pouvoir l'écouter. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Amen.